Conversation avec Hanan Haratz. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle conversation dédiée aujourd'hui à un sujet lié au phénomène migratoire, celui des mineurs marocains isolés à l'étranger. Ce qui nous a donné envie d'en parler et de mieux comprendre le sujet, ce sont des chiffres qui nous viennent d'Espagne. Ils ont été révélés début février par le gouvernement de la communauté autonome d'Andalousie et ils attestent qu'entre janvier et août 2024, plus de 1000 mineurs étrangers sont rentrés en Espagne. 42% d'entre eux sont des enfants marocains. Et pour analyser ce sujet avec nous et en savoir plus, j'ai le plaisir d'accueillir le sociologue Mustapha Almiri. Bonjour Monsieur Almiri.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université d'Aix-en-Provence-Marseille et vous êtes chercheur au Laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Vos recherches portent sur la sociologie des migrations, du racisme, la sociologie de la mondialisation. Mais au cours des dernières années, vous avez orienté vos recherches principalement sur les migrations entre le Maroc et l'Europe et vous dirigez actuellement un groupe de recherche international sur la migration des jeunes et des mineurs africains. Et c'est donc dans ce cadre que vous avez notamment publié une étude dans un article « La migration internationale des jeunes et des mineurs, un désir de l'ailleurs pour se réaliser ». Voilà pour votre présentation. Alors, une question introductive, je citais tout à l'heure en introduction les chiffres donnés au mois de février par le gouvernement de la communauté d'Andalousie. Est-ce qu'ils vous surprennent ces chiffres ou est-ce qu'ils correspondent pour vous à la tendance de ces dernières années concernant la migration des mineurs isolés ?
Je me permettrai un pas de côté par rapport à cette question dans un premier temps pour rappeler simplement que l'Espagne et le Maroc sont des pays frontaliers. D'ailleurs, l'Espagne garde quelques vestiges coloniaux au Maroc autour des villes de Ceuta et Melilla et donc est présente géographiquement en Afrique. Je dirais que dans tous les pays transfrontaliers, ce type de passage dans un monde normal et qui ne serait pas habité par cette névrose autour des migrations, 1000 jeunes qui passent d'un côté ou de l'autre serait un chiffre totalement insignifiant et presque, je dirais, normal. Ce qui serait presque anormal, c'est de se dire que des pays frontaliers n'ont aucune circulation d'un côté ou de l'autre entre leurs jeunes. Donc, pour pouvoir vraiment réellement avoir une vision scientifique de ces chiffres-là, il faut arriver à s'extirper des débats nationaux, des débats médiatiques autour de ces sujets. Et il me semble que 1000 jeunes marocains qui passent en Espagne, rapportés à la population espagnole, nous sommes dans des chiffres qui sont très bas. Mais ces chiffres, bien qu'étant très bas, dans un contexte particulier, peuvent paraître, pour d'autres, extrêmement hauts. Et ce qui est haut, ce n'est pas le nombre, mais c'est l'intensité du débat qu'il y a autour et la qualité de cette circulation. Parce que s'il y avait eu 1000 jeunes français qui avaient débarqué dans cette même région d'Andalousie, eh bien, nous n'aurions pas eu le même débat. Donc, il faut être conscient que ces débats-là ne sont pas forcément liés à l'aspect quantitatif, mais ils sont liés aux relèves d'une vision qualitative et qui est marquée aujourd'hui par une forme de séparatisme entre les pays d'Europe et les pays d'Afrique.
Alors, je donnais ce chiffre qui a été donné par le sud de l'Espagne, mais il y a aussi un chiffre en France qui atteste qu'en 2023, il y avait presque 19 500 clandestins reconnus mineurs, ce qui représentait une augmentation de 31% par rapport à l'année 2022. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une tendance à l'augmentation de l'arrivée de ces mineurs isolés ?
Écoutez, depuis que je travaille sur ces sujets, on est sur ces chiffres en réalité. 18 000, 19 000, avec une incertitude. Donc, ce n'est pas simplement l'année dernière. Ces chiffres sont un peu plus anciens. On était à peu près sur les mêmes données, avec un désaccord d'ailleurs en France entre les chiffres donnés par l'État et les chiffres donnés par la conférence des départements, qui eux sont sur 40 000. Mais comme je le disais précédemment, si vous rapportez 18 000 mineurs sur un pays qui compte plusieurs millions de jeunes, nous sommes dans un chiffre extrêmement faible en réalité. Donc l'augmentation qui est indiquée, c'est une augmentation qui est par rapport aux chiffres précédents, de l'année précédente. Mais globalement, si vous rapportez 18 000 sur les 68 millions d'habitants, on est dans des 0, quelque chose. Donc en réalité, ces phénomènes restent extrêmement mineurs, pour reprendre ce terme-là, à l'échelle de la circulation internationale. Ils sont beaucoup plus faible que, par exemple, au XIXe siècle, où la circulation des mineurs atteignait des centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, si on prend les circulations des mineurs du nord de l'Europe vers l'Afrique à l'époque coloniale, il y avait bien plus de jeunes qui circulaient entre ces zones-là. Donc, pourquoi je vous dis cela? C'est pas pour ne pas répondre à cette question, mais c'est simplement pour réinscrire ces chiffres-là dans des débats nationaux actuellement sur la question migratoire, pour qu'on puisse comprendre que le rapport aux chiffres n'est pas un rapport mathématique, mais c'est un rapport social qui se passe aujourd'hui. Et donc, je le répète, 18 000 ne sont pas dans des augmentations extrêmement fortes, ce sont plutôt des chiffres stables sur les dernières années.
Mmh. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on commence la première partie de notre conversation sur les études qui ont été consacrées à ces mineurs isolés. Et peut-être pour commencer, une petite question de définition, de qui et de quoi parle-t-on exactement quand on parle de mineurs isolés ou de mineurs en errance? Parce que je pense qu'il y a il doit y avoir des précisions à donner sur ce qu'on entend, parce qu'il y a beaucoup de représentations qui se font sur ces mineurs. Donc, de quoi et de qui parle-t-on exactement?
Alors, la notion de mineur, elle est définie principalement par les pays d'arrivée, en grande partie. Ce qu'on entend par mineur isolé, ce sont des jeunes qui arrivent sans leurs parents sur le sol européen et qui ont moins de 18 ans. L'âge de la majorité, pour la France, par exemple. Donc, ce sont ceux-là qui sont considérés comme mineurs. Et la notion d'isolé, elle renvoie non pas à l'isolement de ces jeunes réels, parce que ces jeunes n'arrivent jamais seuls, mais à l'isolement par rapport à ce qui est considéré comme la filiation la plus importante, la famille. Parents, mère, père, par exemple, ou frères et sœurs. Donc, cette notion-là qui est donnée des mineurs isolés et qui est principalement en réalité une catégorie du travail social européen qui aujourd'hui est reprise par les politiques migratoires, notamment en France, où on parle de MNA et non plus de mineurs isolés, de mineurs non accompagnés. Mais sur la notion d'errance, voilà. Alors, c'est une notion qui a été développée principalement par des sociologues qui ont fait ces travaux-là et que je remets en cause profondément parce que cette notion d'errance, elle renvoie à l'idée que les gens qui errent en Europe étaient déjà en errance dans leur pays d'origine. Et cette vision est une vision que je trouve en filiation avec des travaux sur les indigènes de l'époque des années 40, 50, 60. Mm-hmm. Considérer que tous ceux qui bougent sont en errance, c'est cette vision, c'est l'idée que l'errance des jeunes européens était précédée par une errance dans les pays d'origine. Or, lorsqu'on travaille sur ces questions, on voit qu'une partie des jeunes qui ont migré n'étaient pas en errance au Maroc, n'étaient pas en errance en Algérie ou en Tunisie, et que l'errance commence à partir du moment où ils sont confrontés à l'impossibilité de pouvoir s'installer sur le sol européen.
Mmh. Est-ce que vous pensez notamment à tout ce qui a été écrit, dit sur ces jeunes qui à un moment faisaient l'actualité, ces mineurs marocains dans certains quartiers de Paris, je pense notamment à celui de la Goutte d'Or dans le 18e, et qu'on assimilait à des enfants des rues et qu'on a justement appelé des mineurs en errance, c'est à ça que vous pensez ?
C'est à ça que je pense. Je pense que le lien par ceux qui ont fait ces travaux-là et qui me posent problème font le lien directement entre les enfants des rues qu'on voir à Casablanca, par exemple, et les enfants des rues qu'on a à Paris, sauf qu'une partie de ces enfants qui sont retrouvés dans la rue à Paris, ce sont des enfants qui sont devenus errants en arrivant en Europe. Ils n'avaient pas forcément d'errance, et pour ceux qui connaissent un peu les enfants des rues de Casablanca, on a affaire à des populations qui sont dans une telle vulnérabilité que leur mobilité est impossible. D'abord parce que ça nécessite un coût financier, ça nécessite des ressources qu'une partie de ces enfants n'ont pas dans les pays d'origine.
Avant de développer les résultats de votre étude, depuis quand les études sociologiques se penchent sur le phénomène, et notamment en France? Est-ce que c'est un objet d'étude récent?
Je dirais que la sociologie française, ou les études françaises, sont liées en grande partie aux préoccupations d'État. Donc ça a démarré dans les années 90, lorsqu'on a eu l'arrivée des premiers mineurs, en France notamment, et je dirais au-delà de la France, dans les aires urbaines, parce que c'est les lieux de visibilité qui ont déclenché un travail de la part de l'État dans un premier temps, et ensuite à travers des commandes publiques aux chercheurs et aux scientifiques qui ont participé aussi à la visibilisation de ces phénomènes. C'était les premiers enfants mineurs qui étaient arrivés à Marseille, à Paris, que vous avez cité. Donc on est dans les années 90 où ces travaux ont commencé à se développer, mais je dirais que ces travaux sont renouvelés aujourd'hui, dans les années que l'on vit, par des jeunes chercheurs qui se sont extirpés, hein, tout de même, de l'épistémologie qui caractérisait les recherches des années 90, et qu'on a affaire à des travaux qui ne s'inscrivent plus forcément dans l'idée de l'errance, mais qui sont dans une vision critique sur la définition même de la minorité ou de la majorité, ou dans une définition critique sur ce qu'on entend par isolement ou mineur non accompagné.
Sur l'étude, pardon, que vous avez menée, est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer son contexte, c'est-à-dire à la fois sa genèse, quels pays ont été concernés et la méthodologie que vous avez employée ?
Alors, cette étude, qui est une recherche qui regroupe plusieurs chercheurs, je l'ai lancée à l'époque avec l'idée d'interroger la mobilité des jeunes africains. Et quand j'ai des jeunes africains, j'intègre le Maroc en Afrique, mais c'était pas limité à la migration des jeunes marocains seulement, ça comprenait aussi la migration de populations provenant des pays dits du Sahel ou de l'Afrique subsaharienne et qui passent aussi par le Maroc. Et donc l'enjeu, c'était moins d'interroger la question de la minorité ou des mineurs isolés en Europe que de comprendre ce qui est à l'origine de ces nouvelles circulations ou cette dynamique circulatoire dans une partie de la jeunesse africaine. Donc mon questionnement est parti simplement de ce point de vue-là. Comment peut-on comprendre l'envie de départ chez une partie des jeunes de la population africaine ? Je dirais que avant cela, j'avais déjà travaillé sur le départ des jeunes français. Pour apporter à l'étranger, notamment des jeunes français qui étaient installés au Canada à Montréal, qui étaient installés à San Francisco, ou même pour certains d'entre eux qui étaient installés en Afrique du Nord. Donc simplement pour dire que ce phénomène de circulation des jeunes, il est aussi important en Europe. Les sondages qui sont faits sur le désir de partir des jeunes français donnent des chiffres avec des importants, plus de 70% des jeunes interrogés ont un désir d'ailleurs, en France, et pas simplement qu'au Maroc. Donc mon questionnement partait de l'idée, voilà, si on part de cette idée que les jeunes Africains, leur mobilité est à questionner, non pas par rapport au point de vue européen, mais par rapport aux dynamiques propres de l'Afrique, ça nécessite qu'on s'interroge à partir des pays de départ et des pays d'installation, désormais que sont le Maroc, pour une autre forme de migration, puisque le Maroc accueille une migration aujourd'hui. Plus de 100 000 personnes d'Afrique subsaharienne sont installées au Maroc. Donc, ça partait de cette idée-là de comprendre les dynamiques propres au continent africain et puis le contact avec le continent européen et les effets entre cette dynamique propre des pays africains et l'hostilité d'accueil dans les pays européens.
Alors, quels sont les principaux résultats ou observations que vous avez pu relever quant au profil et aux caractéristiques de ces mineurs ?
Alors, sur les profils, ce qui nous a étonnés, c'est la diversité. Et en même temps, en disant cela, je dis une banalité, mais bien souvent, les premiers travaux, comme je l'ai dit, ont été sur des profils de l'errance classique, avec des gens qui seraient en errance dans leur pays, qui partiraient. Et là, dans nos premiers travaux, ce qu'on a vu, c'est qu'il s'agissait de jeunes de classe ou de catégorie populaire, de catégorie moyenne, mais y compris de jeunes de catégorie moyenne-haute, qui circulaient entre ces continents, donc avec des profils très diversifiés et qui touchent une grande partie des régions et différentes couches de la population. Donc je dirais que le principal résultat, c'est la diversité et la dissémination des profils dans les différentes couches sociales des pays de départ. On avait globalement des gens qui pouvaient sortir des familles qui étaient en situation de pauvreté, comme des jeunes qui sortaient de familles qui étaient en capacité de financer un voyage de 5 000, 6 000 euros, voire 7 000 euros parfois.
Mais ça, c'est assez loin des représentations qu'on se fait du profil social de ces jeunes.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. On est dans quelque chose qui est à rebours des représentations et des préjugés qui sont extrêmement forts sur cette mobilité. En réalité, les jeunes que nous avons rencontrés dans les différents points sur lesquels nous avons enquêté proviennent de différents milieux sociaux. Et je le répète, en réalité, très peu proviennent des couches les plus pauvres. Parce que voyager, ça nécessite des ressources culturelles, sociales et des ressources économiques. Et que lorsqu'on additionne ces trois ressources, ça exclut les populations les plus pauvres. Elles n'ont pas la possibilité de pouvoir voyager. Donc, ça va à rebours, cette idée-là, que ce sont les plus pauvres qui bougent. Et j'ai envie de vous dire rapidement que, pour écarter cette hypothèse, si vous regardez le nombre aujourd'hui de personnes qui vivent avec moins de 1 dollar ou de 2 dollars par jour dans le monde, on est à 3 milliards. Donc, si la migration était justifiée que par la mobilité, nous n'aurions pas simplement quelques centaines de millions de personnes sur les routes, mais nous aurions des centaines de millions. Or, c'est pas le cas. Donc, ça dit bien que la pauvreté n'est pas forcément le moteur de la mobilité.
Mais ce que vous venez de nous décrire et de nous expliquer, est-ce que c'est sur l'ensemble des pays d'origine de ces jeunes migrants ou est-ce que c'est vrai aussi du cas du Maroc?
C'est sur l'ensemble, y compris du Maroc, où on a rencontré et interviewé des jeunes qui venaient des quartiers populaires de Casablanca, par exemple, avec des profils de catégorie populaire basse, des gens non qualifiés, qui ont eu un parcours scolaire assez court, Et puis de l'autre côté, nous avons eu aussi des jeunes qui venaient de différentes régions, du sud du Maroc, de l'est, de l'ouest, du nord, et qui avaient pour la plupart d'entre eux fait des études. Pour certains d'entre eux, ils avaient même pu avoir une première expérience professionnelle dans le tourisme, par exemple, autour d'Agadir ou ailleurs. Des jeunes dont la maîtrise linguistique était assez frappante, qui parlaient pour certains d'entre eux anglais, en plus de l'arabe, langue maternelle. Certains d'entre eux parlaient anglais, français, arabe, donc on n'est pas dans les profils de jeunes totalement disqualifiés, qui n'ont aucune qualification. Mmh. Et beaucoup de ces jeunes avaient, notamment des jeunes marocains, des compétences et des capacités qui étaient importantes à plusieurs niveaux, puisqu'une partie d'entre eux ont fait plus de 10 pays en circulation.
C'est en ce sens que vous parlez de jeunes, et c'est votre terme internationalisé. Et ce que vous dites, c'est aussi que finalement, en raison de ces profils, en réalité, ils sont moins à la recherche d'une sorte d'Eldorado que d'une véritable liberté de circuler, comme pourrait l'avoir n'importe quel autre jeune de leur âge dans le monde. Est-ce que c'est ça la grande, pas nouveauté, mais est-ce que c'est un des résultats qui peut-être remet le plus en cause nos représentations sur cette forme de migration?
Oui, il me semble, et c'est ce que nous défendons dans les résultats de cette recherche, c'est de nous extirper des catégories posées simplement à partir des pays d'arrivée. Et lorsqu'on interroge les profils des jeunes qui circulent, en réalité, ces jeunes étaient déjà internationalisé avant même de partir. Et si on prend le Maroc est par excellence un des pays pour moi les plus cosmopolites dans son histoire. Cosmopolite d'abord par la diversité interne, des langues, des cultures à l'intérieur du Maroc. Le Maroc est forgé de plusieurs croisements et c'est ce qui fait un peu sa spécificité. Et puis le Maroc aussi a eu, comme beaucoup de pays d'Afrique du Nord, un contact avec la colonisation qui a amené aussi une autre culture administrative, institutionnelle, une autre langue. Donc en réalité, ces populations d'Afrique du Nord, notamment d'Afrique subsaharienne, ont été cosmopolitisées très tôt et elles sont internationalisées. Et la seule différence qu'il y a entre ces jeunes du Maroc et les jeunes, je dirais, tels que je les vois en France, c'est que les uns ont la possibilité de circuler à l'échelle mondiale, les autres sont empêchés. Et donc, on parle de cet empêchement.
Pardon, vous donnez, juste pour souligner ce que vous dites, un chiffre que vous avancez et qui est assez vertigineux, c'est que 20% de la population mondiale, qu'elle soit mineure, jeune ou adulte, peut librement circuler dans le monde entier et 80% reste soumise à un régime de visa qui, souvent, lui rend la vie impossible.
Mais on est sur cette réalité factuelle dans un monde où le régime de circulation est dual. Pour les uns, il y a une possibilité de circuler dans la quasi-totalité des pays du monde. Et pour les autres, il y a une soumission à des régimes de visa plus ou moins stricts, voire parfois infranchissables, qui font que toute envie de découverte du monde passe forcément par la confrontation à la frontière. Et donc c'est cela pour nous qui explique l'idée ou le fait que les jeunes qui bougent marocains sont simplement des jeunes internationalisés dont le désir de liberté est empêché. Et lorsque ce désir de liberté est empêché, il est tout de même exercé par une partie de ces jeunes. C'est ce qui fait qu'ils se retrouvent dans des catégories clandestins, jeunes en errance, irréguliers. Mais si on fait une comparaison simple, un jeune d'un lycée de Casablanca ou d'un lycée de Rabat a peu de chances d'organiser des classes à l'étranger. En visite de classe. Or, c'est pratiquement la norme dans beaucoup de pays européens où des jeunes, des lycées, des universités partent en voyage de classe à l'étranger. Parce que le régime des visas rend cela impossible. Je vivrai même plus loin, y compris lorsque nous organisons des colloques ou des séminaires. Nos amis et nos collègues qui viennent du Maroc, qui viennent des pays subsahariens, sont toujours confrontés à des difficultés de circulation incompréhensibles pour nous. Moi, lorsque j'ai un colloque à Rabat ou à Casa, je n'ai qu'à aller sur mon ordinateur, à prendre un billet d'avion, c'est quasiment la seule formalité. Lorsque un des collègues est invité en France pour un colloque, je suis dans l'obligation de lui faire une lettre de soutien pour qu'il puisse demander un visa. Donc à partir de là, nous sommes dans des régimes factuellement duaux en termes de liberté de circulation qui produisent les empêchés et qui produisent des gens qui seront illégalisés lorsqu'ils décident de réquisitionner le droit à la circulation quelque part.
Alors, si je reprends deux éléments que vous nous avez donnés. Le premier, c'est que l'origine sociale de ces mineurs migrants est très différente et qu'il y a des jeunes issus de milieux paupérisés comme de jeunes issus de classes plutôt moyennes. La deuxième donnée, c'est qu'ils sont d'abord en quête d'une liberté de circuler et d'un désir de liberté. Mais est-ce que, quel que soit leur milieu d'origine et ce désir de liberté, est-ce qu'ils ont quand même un rêve, un projet au moment où ils partent et est-ce qu'ils ont des rêves et des projets communs? Ou est-ce que c'est un rêve qu'ils inventent au fur et à mesure? Et aussi, en fait, ce qui est lié, c'est est-ce qu'ils ont un rêve commun? Et où est-ce qu'ils ont déjà une destination précise en tête? Ou est-ce qu'ils l'inventent au fur et à mesure? Le plus important pour eux étant juste d'avoir cette liberté.
Merci pour cette question, parce qu'elle rejoint du travail qu'on a fait avec ma collègue Flora Bajard et dont on publie un premier extrait dans un chapitre d'ouvrage aux éditions La Croisée du Chemin, qui sortira en avril et qui est dirigé par notre ami Ali Ben Mahlouf. Donc dans ce travail, on démontre clairement que la migration, elle est elle-même le produit d'un rêve. Avant même de partir, rêver, c'est d'une certaine manière une des conditions avant le départ, et qu'une partie de ces jeunes ont des rêves. Et quand j'ai eu des rêves, souvent la notion de rêve est renvoyée à la matérialité comme indicateur, rêver de devenir riche, rêver d'accéder à des conditions de vie. Mais en réalité, lorsqu'on les questionne de manière plus profonde et qu'on prend le temps méthodologiquement de revenir avec eux et d'approfondir certaines notions, on se rend compte que ces rêves renvoient moins à une forme de matérialité qu'à une possibilité d'exercer une forme de souveraineté sur leur propre vie. Et donc, on est dans des jeunes dont le rêve est un déracinement entre leur inscription dans le réel, la manière dont ils vont vivre au quotidien au concret, attachés à des localités, attachés à des lieux, cette idée-là de pouvoir s'affranchir de ces localités, de ces lieux, ça ne veut pas dire les renier, mais de pouvoir bouger comme ils le veulent et d'entretenir un lien avec différents territoires comme un lien, pas simplement à un espace, mais un lien au monde. Alors, ça peut paraître un peu théorique ce que je dis, mais dans ce qu'on a posé comme question à ces jeunes, on a repéré qu'il y avait différents types de rêves chez eux qui étaient travaillés. Ce sont des rêves travaillés pour certains. Comme rêve, chez les jeunes subsahariens, lorsqu'on les questionnait, la plupart ne sortaient dans un premier temps: moi, je souhaiterais devenir footballeur professionnel, voyez, chanteur. Lorsque je serai, et là on peut se dire, bon, là c'est l'illusion complète, mais en réalité, quand on travaille avec eux, mobilité, rêver très large, c'est ce qui vous permet d'avoir la force de vous mettre en action, d'abord intellectuelle, pour penser votre mobilité. Et lorsqu'on a travaillé ce premier rêve, on s'est rendu compte que le deuxième rêve était beaucoup plus réaliste. Formation, scolarisation, diplôme à l'université, diplôme de pâtissier, diplôme de cuisinier, diplôme d'informaticien, et qui venait un peu plus tard. Et puis lorsqu'on travaillait un peu plus cette deuxième strate de rêve, il y avait une troisième strate de rêve qui était, elle, encore plus réaliste. C'est simplement avoir un métier. Si j'ai ce métier-là, ça me donnera une liberté. Cette liberté économique me donnera une liberté sociale. Mmh. Et donc, toujours, le matériel me permettra d'être libre socialement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être libre socialement? Me marier quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Choisir le type de formation, le type d'école pour mes enfants. Choisir le lieu où je peux aller en voyage ou pas. Choisir le lieu de mes vacances. Alors, tout cela, ce sont des banalités dans une partie du monde, mais ces banalités sont un rêve dans une autre partie du monde. Donc, si on ne conçoit pas que ce rêve-là est empêché, on ne comprend pas pourquoi une partie des jeunes se mettent en marche. Est-ce qu'il y a des illusions déçues? Oui. Une partie de ces jeunes, lorsqu'ils arrivent en Europe, ils voient très bien que c'est difficile. Mais comme je le dis, lorsqu'ils disent chanteur, rappeur, eux-mêmes, lorsqu'ils définissent ça, en réalité, la plupart d'entre eux savent qu'ils ne seront pas ça. Mais c'est le rêve qui vous permet de sortir d'une condition sociale. J'ai presque envie de dire, essayons de réfléchir à la première femme qui a dit un jour en Europe, moi je voudrais devenir médecin, à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir le bac. Et donc, c'est le même niveau.
Alors, est-ce qu'ils sont, vous avez évoqué leurs rêves un peu en entonnoir, c'est-à-dire des très grands rêves, et puis la réalité économique qui les rattrape, et puis des projets de vie en fait qui s'inscrivent dans le réel. Est-ce qu'ils ne sont pas rattrapés par la réalité, ne serait-ce que lors du chemin qui les emmène de l'Afrique, du continent africain et du Maroc, vers le continent européen? Et en ce sens, c'est quoi les chemins migratoires qu'ils empruntent aujourd'hui? J'imagine qu'ils ont dû beaucoup évoluer avec l'évolution aussi de la gestion des frontières ou de la fermeture de certaines frontières. Donc comment ces chemins migratoires ont évolué au cours des dernières années? Et est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies qui se sont développées pour leur permettre d'arriver en Europe?
La question de la réalité, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas qu'ils découvrent la réalité, mais c'est qu'ils sont en confrontation permanente avec elle. Et d'ailleurs, lorsqu'on choisit de partir, qu'on soit jeune Guinéen, jeune Camerounais ou jeune de Casablanca, c'est déjà entrer en combat avec le réel. Et est-ce que le réel amènerait les gens à dire « on bouge pas » concrètement, lorsqu'on regarde les conditions et on prend en compte cette idée de réalité qui en réalité n'est que l'ordre établi. Le fait de partir, c'est rentrer en confrontation, et cette confrontation s'accentue le long du chemin parce que le chemin est difficile, il est fait d'empêchement, et donc il y a, malgré cela, un non-renoncement de ces jeunes. Ils ne retournent pas lorsqu'ils sont en chemin, donc ils se confrontent au réel parce que leur départ était déjà une première confrontation. Donc cela les amène à épouser des chemins de plus en plus longs parce que les 14 kilomètres qui séparent le Maroc et l'Espagne sont devenus de plus en plus infranchissables pour une partie des populations. L'arrivée en France devient de plus en plus difficile aussi. Donc on a une partie des jeunes marocains qui aujourd'hui vont jusqu'en Tunisie, par exemple, pour certains d'entre eux, pour essayer de passer en Italie, ou alors d'autres chemins plus lourds encore. C'est le départ du Maroc vers la Turquie et de la Turquie entreprendre un parcours qui se fait le long des pays et qui va parfois jusqu'en Autriche pour revenir en Espagne. Donc pour atteindre les 14 kilomètres, on a une partie de la population des jeunes qui va parcourir quasiment 10 pays et plus de 5 000, 6 000 kilomètres pour revenir à un endroit qui était à 14 kilomètres du Maroc. Donc ces chemins deviennent de plus en plus difficiles parce que la route des Balkans, la route des pays de l'Est est une route extrêmement dangereuse, difficile. Beaucoup de jeunes qui passent par exemple pour la Bulgarie subissent des exactions physiques, des violences tout au long de cela.
Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question, étant donné ce contournement qui est énorme, puisque comme vous le disiez, ils font des milliers de kilomètres là où il n'y en avait qu'une dizaine à faire avant. Ça doit les exposer à énormément de risques, et j'allais vous demander à quels risques ils sont justement confrontés pendant ce voyage, que ce soit les violences physiques ou même l'exploitation économique.
Il y a tous les risques, ça va de l'exploitation économique jusqu'au l'enfermement, pour une partie d'entre eux, violence physique régulière. Tous ceux que nous avons rencontrés dans les témoignages, aucun des jeunes que nous avons rencontrés qui est passé par les pays du type la Bulgarie en est sorti indemne. Ils ont tous subi, dans tous les témoignages, ils ont tous subi des violences physiques. Des violences physiques exercées par les autorités de ces pays-là, hein, pas simplement par les populations, comme ça peut se passer en Hongrie, et avec souvent à la fois une espèce d'ambivalence. C'est-à-dire que vous avez en Hongrie des gens qui proposent de faire le taxi pour 300 et 350 euros pour vous amener d'un point à un autre, qui sont des Hongrois, donc il y a une forme d'économie de la misère qui se met en place. Mais en même temps, les autorités de ces pays-là pourchassent les jeunes en situation de migration qui passent, et lorsque ces jeunes sont arrêtés, ils sont systématiquement violentés dans ces pays-là, ou alors ils sont enfermés dans d'autres pays. Donc là, c'est tous les témoignages. Et donc les risques sont importants, et les risques ils peuvent aller jusqu'à la perte de la vie pour certains d'entre eux, d'abord en Méditerranée pour ceux qui passent par la mer, ou dans les différentes étapes, hein, parce que dans ces pays-là, il y a une partie des étapes de franchissement de montagneuses. En plein hiver, ce sont des pays où le froid est saisissant à certaines périodes de l'année. Donc là, il y a différents risques, et les jeunes qui passent par ces pays-là gardent tous en tête des violences physiques subies, principalement malheureusement dans les prisons et dans les lieux d'enfermement, parfois qui étaient des lieux d'enfermement qui ne correspondent pas au droit international. Je pense aux témoignages que nous avons eus sur des jeunes passés par la Bulgarie qui étaient sous-alimentés lorsqu'ils étaient arrêtés, et puis parfois qui étaient simplement renvoyés sans aucun autre asile dans le pays d'à côté transfrontalier.
C'est très dur, hein, ce que vous nous racontez. Bon, même si on imagine bien qu'ils sont exposés à ce genre de risques et de violence et de maltraitance aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas une protection du droit des enfants? Est-ce qu'il n'y a pas des organismes qui peuvent s'assurer que justement ces maltraitances n'aient pas lieu? Et puis la deuxième question, c'est ces enfants que vous avez pu rencontrer et interroger, est-ce que ces violences qu'ils subissent créent des formes de solidarité entre eux? Quelle est leur parade face à ça pour continuer quand même le chemin quand ils le peuvent?
Alors c'est une vraie question qu'on s'est posée, que je me suis posée, parce qu'une partie des jeunes que j'ai rencontrés et que j'ai questionnés notamment dans des lieux d'accueil en France étaient à la fois marqués dans leur récit par cela et en même temps avaient une distance extrêmement forte vis-à-vis de ça. Mais je reviendrai simplement sur la question des ONG. Oui, il existe des ONG, il existe des associations. Et puis, dans les différents pays que j'évoquais, il y a un rejet extrêmement fort des migrations, mais il y a toujours une partie de la population qui n'est pas forcément dans le point de vue dominant et qui participe aussi d'une certaine forme de solidarité souterraine avec ces jeunes. Tous ont en tête une aide à tel ou tel endroit, un sourire, un accompagnement de personnes, simplement de ces sociétés-là, de la société civile. Mais sinon, en termes d'encadrement de leurs droits à l'échelle globale, non, il n'y a pas grand-chose. Et c'est ça qui, aujourd'hui, pose problème. l'exercice du droit de ces populations qui n'en ont pas est quasiment inexistant en termes d'accompagnement. Et là, tous les rapports qui sont faits vont tous dans le même sens pour dénoncer cet non-accompagnement de ces jeunes dans leurs droits, donc quels que soient les pays. Et j'évoquais les pays où ces droits sont totalement inexistants. C'est plutôt un droit à la violence du pays d'accueil qui est exercé que l'inverse, hein, notamment la Bulgarie. J'ai été frappé dans mes enquêtes par le retour quasi unanime des jeunes qui sont passés par la Bulgarie par les violences subies. Et Le Monde avait mis en le journal Le Monde avait fait une enquête et sur l'année dernière, ils avaient démontré que les Bulgares, par exemple, emprisonnaient certains jeunes dans des remorques de camions plutôt que les mettre dans des cellules, dans des cages improvisées. Et ça a été documenté. C'est pas simplement des éléments. Il y a des images, il y a des témoignages. Et donc là-dessus, on peut se poser la question sur le droit international de protection des populations les plus vulnérables aujourd'hui, sur sa mise en valeur. J'ai eu l'occasion d'écrire cela lors d'une conférence à Rabat au CCME.
Alors, merci de nous avoir donné tous ces éléments concernant l'étude et ses profils et l'histoire du rêve de ces jeunes. J'aimerais maintenant vous interroger sur tout ce qui concerne la protection de ces enfants et les dimensions politiques de ce sujet. D'abord, concernant leur protection quand ils arrivent à destination, que ce soit en Espagne, en France, comment ça se passe concrètement pour eux? Parce que pour ne pas être considérés d'abord comme des migrants illégaux, ils doivent être considérés comme des mineurs. Une fois qu'ils sont mineurs, je crois qu'ils ne sont pas expulsables. Vous me corrigez si je me trompe. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le cas dans tous les pays européens? Mais comment, par exemple, concrètement, ils prouvent qu'ils sont mineurs? Parce que souvent, ils sont sans documents administratifs, ces jeunes.
Oui, alors c'est un parcours extrêmement difficile et je dirais que je décrivais l'ambiance politique, mais dans nombre de pays européens, il y a quand même des instances judiciaires et la justice joue son rôle en grande partie. Donc lorsqu'un jeune arrive ici et qu'il veut faire reconnaître sa minorité, il y a beaucoup d'associations, notamment en France, beaucoup de populations de la société civile qui jouent ce rôle de solidarité internationale et qui sont dans une vision dénationalisée de leur rôle et de loyauté plus marquée envers les droits de l'homme et les droits humains que de loyauté envers une espèce de patriotisme flou tel qu'il est développé par une partie de l'extrême droite. Et donc ces gens participent et accompagnent ces jeunes, et pour pouvoir se faire reconnaître la minorité, il y a d'abord une procédure qui commence par une procédure de reconnaissance de cette minorité, une rencontre avec un travailleur social, un premier entretien, une rencontre ensuite avec un juge qui définit si le jeune est mineur ou pas. Et dans certains cas, en France, on fait y compris appel à une preuve médicale de cette minorité quand on estime que le témoignage n'est pas suffisant, et on passe par la datation osseuse de ces jeunes en faisant appel aux médecins qui vont pouvoir dater. Et la datation osseuse est extrêmement critiquée puisqu'elle dépend en grande partie, elle est basée sur la craniométrie du 19e siècle. C'est-à-dire l'anthropologie raciale qui, en gros, dit lorsqu'un os a de telles dimensions, c'est que c'est un os caucasien ou un os de tel ou tel pays. On est toujours sur cet élément qui n'est pas reconnu d'ailleurs par une partie de la communauté médicale qui estime que ces datations ne sont pas fiables du tout. Donc, s'ensuit par là. Et ce sont les départements en France qui ont la charge de l'instruction de cette reconnaissance de la minorité. Donc il va sans dire que cette reconnaissance est disparate entre les départements. Certains départements font en sorte de n'avoir quasiment pas de reconnaissance de minorité et classent une bonne partie de ces jeunes comme non mineurs. D'autres départements sont un peu plus regardants et font attention. Et lorsqu'on s'est intéressé aux procès-verbaux, par exemple, de certains entretiens, bien, il y a certains jeunes dont la minorité n'a pas été reconnue parce qu'on estimait qu'ils étaient trop matures pour leur âge. Ou parce qu'ils avaient telle ou telle disposition physique. J'ai presque envie de dire que quand vous avez fait 10 pays à pied, différentes manières, bah forcément, il y a une accélération de la maturité. Et qu'on ne peut pas juger un gamin qui a fait 10 000 km de circulation à pied sur sa maturité comme un enfant qui a grandi dans une maison, lycée, collège, qu'on pourrait être les miens. Et que là, forcément, l'effet de maturité joue.
Et ce que vous dites aussi, c'est que cette définition de la minorité et de la maturité est très subjective, puisque dans les pays du Sud, un enfant parfois de 15 ans ou 16 ans est déjà considéré au sein de la famille comme un adulte responsable, et que donc le juger sur sa question de maturité n'est pas une solution ou une option.
Complètement, et j'ai presque envie de dire que là, on est dans une filiation avec une vieille histoire. Pendant longtemps, on a jugé les peuples colonisés comme mineurs, donc infantiles, pas en capacité de se gouverner par eux-mêmes. Et aujourd'hui, ces jeunes se voient reprocher l'élément inverse. Vous n'êtes pas assez mineur, vous êtes trop majeur, trop mature pour pouvoir être protégé. Donc là, on voit comment l'inversion peut se jouer en fonction, en grande partie, toujours guidée par le même élément, j'ai presque envie de dire, la mise à distance d'une partie des populations dont on veut pas. Donc oui, c'est subjectif. Et au-delà de subjectif, parfois, elle est portée en réalité par des préjugés, des préjugés socio-ethniques, des préjugés culturels sur la minorité ou la non-minorité des jeunes. Et beaucoup de PV, d'auditions de ces jeunes, le démontrent.
Alors, pour ceux qui arrivent à prouver leur statut de mineur, comment se passe leur prise en charge aujourd'hui ? Quel est d'une part le rôle de la société civile et celui des institutions étatiques ou nationales ? Quel rôle jouent en réalité les ONG, les associations ? Et comment vous, personnellement, à l'aune des témoignages que vous avez pu recueillir, comment évaluez-vous l'accès à l'éducation et aux services sociaux, notamment aux services médicaux dans les pays d'accueil pour ces jeunes ?
Une fois que leur minorité est reconnue, ils sont pris en charge par les institutions. Il y a une prise en charge, ils ont le droit à la scolarité, en grande partie. Voilà, mais se posera la question de leur maintien sur le sol français une fois qu'ils ont atteint l'âge de la majorité. Parce que ce statut ne vous donne pas la possibilité de rester de manière indéterminée en France. Hein. Vous êtes protégé tant que vous êtes mineur. Une fois que vous ne l'êtes plus, vous ne disposez plus de cette protection. Hein. Donc il y a ce problème-là. Mais globalement, quand la minorité est reconnue, il y a une vraie prise en charge qui existent, éducatives, socio-éducatives. Donc là, les institutions de l'État-providence fonctionnent assez bien. Je dirais que la société civile, contrairement à ce qu'on peut penser des sociétés d'Europe et qui est diffusée par les médias, en grande partie par les partis d'extrême droite, qui ont l'impression que toute la société est au diapason de leur discours, il y a une dynamique sociale extrêmement forte. Nous avons observé différents lieux d'accueil, notamment un refuge qui est à Briançon, ce refuge qui accueille tous les jeunes ou les moins jeunes qui passent par la frontière italienne et qui arrivent en France. Ce refuge n'est constitué que de la société civile, que de bénévoles, qu'avec des fonds et des financements de cette société civile. Vous voyez, qui accueille plus de 200, 100, 60, en fonction des périodes, personnes, de manière continuelle. Il y a eu plus de 20 000 personnes accueillies dans ce centre. Il y a des centres de ce type-là un peu partout, sans parler des familles d'accueil. Il y a tout un réseau de familles d'accueil dans lesquelles sont placées une partie des jeunes par la société civile. Donc, il y a une vraie dynamique, en réalité, solidaire. Il ne faut pas, là, penser que le séparatisme est fort. En réalité, entre les sociétés, il y a, dans les sociétés européennes comme dans les sociétés d'ailleurs ou africaines, des gens extrêmement solidaires. Donc, la société civile accompagne et beaucoup de jeunes bénéficient de cet accompagnement. Alors, le chiffre est difficile, évidemment, à donner parce qu'ils sont très peu à pouvoir bénéficier de cette reconnaissance-là. Et dans la prise en charge, il y a une bataille des familles d'accueil en grande partie, qui ensuite bataille pour que ces jeunes soient stabilisés dans leurs conditions sociales. Donc là, il y a une vraie dynamique et je dirais que l'État ou les États européens, ce sont des États ambivalents. Il y a les politiques migratoires qui sont faites, mais il y a ensuite le système judiciaire, les traités internationaux. La France est signataire de la Charte des droits de l'enfant. Donc tout cela, ensuite, est utilisé par la justice. D'ailleurs, le défenseur des droits a fait plusieurs rapports pour plaider pour les droits de ces jeunes-là. Donc il y a une ambivalence. Les politiques migratoires sont extrêmement strictes et sont marquées par le rejet. Les institutions judiciaires et de la société civile sont-elles marquées par le droit et la solidarité pour une grande partie. Donc voilà, je dis cela, c'est pour pas qu'on pense que nous sommes dans des dichotomies fortes ou une vision simplement de rejet. Les sociétés européennes sont travaillées aujourd'hui par les deux, les deux dimensions.
Donc finalement, ce qui se joue, c'est l'opposition entre le désir de faire respecter les droits de l'homme et pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, les droits de l'enfant, et la lutte contre l'immigration illégale qui est aujourd'hui très présente dans certains discours politiques aujourd'hui.
Complètement, et j'ai presque envie de vous dire que cette bataille-là renvoie à une autre bataille dans les pays européens entre une partie des populations européennes qui sont porteuses d'un droits humains comme référence de l'action, et puis une autre partie de la population et du système politique qui est de plus en plus repliée sur une vision nationaliste de la nation et qui, elle, sur une vision au-delà de l'immigration, de l'idée qu'il faudrait restreindre les droits pour pouvoir homogénéiser la nation et que l'immigration ne sert que de miroir actuellement de cette bataille interne à l'Europe. Et l'actualité telle qu'elle le démontre, on voit bien que la poussée des extrêmes droites est un indicateur de ce débat-là intérieur aux pays et aux démocraties européennes sur la question démocratique et des libertés. Donc je dirais que la question migratoire n'est qu'un terrain d'exercice de ce débat-là qui est interne en réalité à la société européenne. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'y tromper. Je pense qu'il n'y a pas un problème d'immigration en Europe, mais il y a un problème interne aux Européens qui s'exprime à travers la question migratoire.
Mmh. Alors, avant de vous poser la dernière question, parce qu'on arrive bientôt au terme de notre conversation, peut-être juste un petit mot sur l'accord qui a été passé en 2020 entre le Maroc et la France concernant ces mineurs. Il était question d'en rapatrier, c'est le terme qui était employé. Qu'en est-il de cet accord et à quels obstacles juridiques s'est heurté la mise en pratique de cet accord?
Alors, le Maroc, je pense qu'il a fait la démarche qui était une démarche de protection d'une partie de ces jeunes qui sont partis en France. Donc l'idée d'accepter le rapatriement est tout à fait compréhensible à partir du pays de départ. La France était sur l'idée de rapatrier une partie de ces jeunes et l'accord bilatéral devait permettre un rapatriement plus rapide. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas rapatrier, comme on le souhaite, des jeunes qui ont des droits. Et notamment lorsque vous êtes signataire de traités internationaux sur ces questions. Donc le rapatriement d'un mineur à partir de la France vers le Maroc n'est possible que dans les conditions du droit et que les associations, le monde du travail social, le système judiciaire, lorsqu'il se met en marche en France, en réalité, certains considèrent que c'est un frein. Moi, je ne parlerai pas d'un frein à ces retours, mais je parlerai d'un exercice du droit qui protège une partie de ces jeunes. Et donc, les retours ont été beaucoup moins importants que ce que les ministres français qui étaient à la tête de cet accord ont pu mettre en place, pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas expulser des gens comme on le souhaite en dehors du droit.
Une dernière question, Mustapha Almiri. J'aimerais continuer l'échange, mais je pense que vous nous avez parlé tout à l'heure de cette étude à paraître en avril, avec notamment Ali Ben Makhlouf. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir à cette occasion et de poursuivre l'échange. Mais puisqu'il nous faut conclure aujourd'hui, une dernière question peut-être sur votre sentiment personnel. Vous qui connaissez bien le sujet dans toutes ses dimensions, à la fois sociales, mais aussi psychologiques et surtout politiques, quels sont les espoirs et quelles sont les craintes que vous avez personnellement concernant l'avenir de ces mineurs et comment pensez-vous que les chercheurs, les sociologues, les gens du terrain qui ont accès à la parole de ces jeunes en situation vulnérable peuvent accompagner la réflexion et la décision politique?
Alors, je vais vous donner une principale crainte aujourd'hui. C'est moins une crainte envers simplement ces mineurs et ces jeunes sur leurs conditions de vie matérielle qui est très difficile, mais pour les avoir rencontrés, j'ai pu mesurer la force extraordinaire que pour ces jeunes. Mais ma crainte va sur l'appréciation de ce phénomène-là dans les pays de départ. J'ai presque envie de dire aux chercheurs du Maroc et aux chercheurs des pays de départ d'avoir la bonne lecture de ce qui est en train de se passer au niveau de ces jeunes. Et il me semble que la mobilité de ces jeunes, leur circulation, est un indicateur en grande partie d'une forme de démocratisation dans les sociétés actuelle, d'une forme d'internationalisation, y compris des catégories les plus populaires, qui jusqu'à présent n'étaient pas internationalisées. Et donc, attention de ne pas voir dans ces départs des défaillances ou des faiblesses, mais de les voir comme la conséquence un peu compliquée d'une des forces aujourd'hui du Maroc. Et quand je dis l'une des forces, c'est-à-dire qu'il y a un tel développement, il y a un tel désir d'avancer dans ces territoires, que ce désir d'avancer qui était le propre des intellectuels, des catégories les plus aisées, est aujourd'hui touche des populations jeunes en âge et de différentes catégories populaires. Donc la migration n'est pas simplement, comme on le pense, quelque chose qui indique les défaillances, mais je pense, moi, que c'est quelque chose qui indique l'internationalisation des pays anciennement colonisés, et que cette internationalisation, c'est ça qui pose problème en grande partie aux pays européens, parce qu'elle rééquilibre des rapports sociaux hérités d'une époque ancienne. Ça, c'est ma première crainte, c'est la lecture de ce qui est une force.
C'est un changement de paradigme total à laquelle vous invitez.
J'invite à ce changement de paradigme parce que je pense qu'il y a réellement un changement de paradigme et que lorsqu'on ne voit pas le paradigme dans lequel on est, on finit par se voir comme une faiblesse alors qu'on est une force. Et je pense que les chercheurs marocains devraient quitter la grille de lecture européenne sur les migrations et épouser une grille de lecture à partir des départs ou des pays de départ, extirpés des anciennes lectures purement économiques pour comprendre ce qui est en train de se passer. Mon espoir, c'est de penser que aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la démographie aura un rôle important. D'un côté, on a une démographie vieillissante. De l'autre côté, on a des territoires jeunes. Et au-delà de cette démographie, j'ai presque envie de dire que le mouvement de ces jeunes, pour moi, indique un rapport au futur des populations d'Afrique extrêmement ouvertes et extrêmement dynamiques. Donc quand vos populations bougent et se mettent à bouger un peu partout, c'est une dynamique importante, et même s'il est empêché aujourd'hui, même si on l'arrête, j'ai presque envie de dire qu'il est difficile d'arrêter l'histoire en marche. On peut la retarder, mais on ne l'arrêtera pas indéfiniment. Et dans ce sens-là, j'ai un espèce de pessimisme extrêmement optimiste sur l'avenir. Pessimisme parce que les jeunes générations qui sont dans la circulation en font les frais, mais optimisme parce qu'à long terme, ça indique d'une manière ou d'une autre un autre rapport des pays africains et notamment du Maroc au reste du monde, notamment du Nord global.
Vous êtes donc un pessimiste plein d'espoir. Merci beaucoup Mustapha Almiri d'avoir été avec nous, de nous avoir aidé à mieux comprendre à la fois la réalité et tous les enjeux autour de la question des mineurs isolés. Je vous remercie encore et je vous dis sans doute à bientôt.
Merci à vous pour cet échange. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.